Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique.
Mr. President.
Fabienne Synthès sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 5, Herbert Hoover, de l'espoir à l'échec d'une présidence. Voilà l'homme que les États-Unis attendaient. Un modèle qui ne devait sa fortune qu'à son travail, qui était déjà très populaire avant son élection, qui faisait même figure de héros parce qu'il avait tout plaqué pour aider à rapatrier des boys pendant la Première Guerre. Il ne pouvait pas échouer, Herbert Hoover. Et pourtant, cet homme qu'ils avaient tant admiré, les Américains l'ont cherché pendant toute sa présidence. À la crise de 29, il n'a rien compris. Du désarroi de ses compatriotes, il n'a rien vu. De la misère dans laquelle ils étaient plongés, il n'a jamais su les sortir. A-t-il même essayé ? Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Historien spécialiste de l'histoire des États-Unis, notre guide tout cet été dans ce voyage à travers les présidents et les présidences américaines avant l'élection de novembre. Herbert Hoover, Corentin Célin, on va le découvrir, c'est l'homme de trois paradoxes, on va dire. D'abord, il n'est parti de rien, il s'est fait intégralement tout seul, il ne doit sa fortune à personne, il sait ce qu'être pauvre, il sait ce qu'être partir de zéro, et pourtant, une fois arrivé au pouvoir, aucune sensibilité pour ses concitoyens, aucune empathie. Quel drôle de bonhomme.
Oui, tout à fait. C'est effectivement le premier paradoxe qu'on peut décerner dans cette personnalité assez insaisissable. Un homme qui avait fait fortune dans l'industrie minière, après avoir été orphelin très jeune, qui avait voyagé partout dans le monde, qui avait une grande sensibilité normalement à toutes les cultures, mais aussi effectivement à un parcours très difficile qui aurait dû le rendre sensible à la souffrance de ses concitoyens. Et ce n'est pas du tout le cas après 1929. On trouve un homme très dur qui ne comprend pas ce que ressentent ses concitoyens. Mais ce n'est pas le seul paradoxe. Il y a aussi cet homme qui, avant la présidence, est plutôt un internationaliste, un homme qui connaît le monde aussi, qui a beaucoup voyagé, et qui est un président du repli des États-Unis, du repli sur eux-mêmes dans la crise. Et dernier paradoxe, un homme qui, avant la crise de 1929, avait réfléchi à des moyens de mieux organiser l'économie des États-Unis et qui, une fois face à une crise sans précédent, se retrouve complètement dépourvu et comme privé d'idées, alors qu'il était justement réputé pour être une boîte à idées. Et vraiment, ce sont tous ces paradoxes qui articulent une présidence bien étrange.
C'était même un interventionniste Hoover, le Hoover, l'autre Hoover en fait, celui d'avant 1929, qui devient, y compris sur le plan purement économique, un ultra-libéral. En fait, on a l'impression à chaque fois qu'il sort un dollar, qu'il le sort de sa poche et qu'il est contraint et forcé.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça marque beaucoup encore aujourd'hui, quand on observe son comportement après la crise de 1929. C'est son obsession de la rigueur budgétaire, sa phobie de la dépense publique, République. Et d'ailleurs, ce qui est le plus surprenant, c'est que même après sa défaite et après sa présidence, il restera un ennemi juré du New Deal de Roosevelt, son successeur, c'est-à-dire de l'intervention de l'État dans l'économie, montrant là une aversion qui n'était pas forcément la sienne dans les années 1920.
Voilà, on verra pourquoi, on va le découvrir tout au fil de ce récit. On verra aussi ensemble tout à l'heure en quoi peut-être ça nous rapproche de notre époque contemporaine et du président actuel. À tout de suite, Corentin Célin. Herbert Hoover, de l'espoir à l'échec d'une présidence, un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca de Nantes et Claire Tesser, réalisation Fabrice Laigle. Samedi 11 juin 1927, Washington. Aujourd'hui, la capitale fédérale des États-Unis célèbre le retour d'un héros. Sur les pelouses, en face du Capitole, malgré une chaleur suffocante, 100 000 personnes sont venues voir et écouter Charles Lindbergh. Il est là, debout, face au micro, il fascine la foule en racontant ses aventures au-dessus de l'Atlantique. Il a tout juste 25 ans, Lindbergh, il vient de réussir un exploit. En 33 heures de lutte contre sa machine, contre la météo, contre la fatigue, il a effectué le premier vol sans escale entre deux continents, de New York à Paris, seul à bord de son petit avion, le Spirit of St. Louis. Après une parade triomphale dans les rues de Washington, Lindbergh a rendez-vous à la Maison Blanche pour être décoré par le président des États-Unis lui-même, Calvin Coolidge. Le président accroche la Flying Cross à la poitrine de l'aviateur. Les images évidemment font la couverture de tous les journaux du pays. Il est au premier plan, le héros du jour, à sa droite, le président. Et juste à côté d'eux, il y a cet homme qui s'est faufilé devant les appareils photos et serre la main du jeune pilote. Il n'est pas très grand, il a un visage très rond, un front large. Ce n'est pas un inconnu pour les Américains, pas du tout. Herbert Hoover, 52 ans, est lui aussi un héros pour beaucoup d'entre eux. En ce début d'été 1927, Herbert Hoover est le secrétaire au commerce de l'administration Coolidge. En 6 ans, il a transformé cette fonction pour en faire l'un des postes clés du gouvernement. Depuis ses bureaux de Constitution Avenue, il se mêle parfois des grands dossiers de la présidence, il fixe lui-même certaines règles économiques, on le croise très souvent au Capitole, il vient prendre part au travail de certaines commissions, il est hyperactif, il est omniprésent. Si le peuple américain l'a adopté, c'est parce qu'il n'hésite pas à rappeler à l'ordre ceux qui font trop de zèle à son goût, les banquiers, les grands patrons. À Washington, tout le monde le craint, chacun le respecte. Son pouvoir et son action sont si larges qu'à la Chambre des représentants, républicains et démocrates disent de lui qu'il est à la fois le secrétaire au commerce et en même temps sous-secrétaire pour tout le reste. Chaque semaine, il est dans la presse, si souvent en photo dans les pages du New York Times, que le président Coolidge, avec une pointe de jalousie, l'a surnommé Wonder Boy. C'est l'histoire personnelle d'Herbert Hoover qui fait vendre. Il incarne le rêve américain. Orphelin dès l'âge de 9 ans, il est élevé par ses oncles et tantes Quakers, une éducation, une vie austère. Il se hisse jusqu'à l'université, il étudie les mathématiques le jour, il travaille comme commis de bureau la nuit. Il intègre Stanford, il ouvre une blanchisserie pour les étudiants. 4 ans plus tard, il ressort de l'université avec un titre d'ingénieur, ses premiers dollars et un diplôme aussi en géologie. Son premier travail, c'est mineur, dans le Nevada. Il travaille ensuite comme ingénieur des mines dans le monde entier, l'Australie, la Chine, le Japon, la Birmanie. La toute première société qu'il monte, c'est en 1905, il a seulement 31 ans, Zinc Corporation. Elle le rendra riche quand éclate la Première Guerre mondiale. Herbert Hoover est déjà millionnaire. Il est à Londres alors, il plaque tout pour se mettre au service de son pays.
Quand la guerre éclate, Hoover est installé à Londres. l'ambassadeur américain se tourne vers lui pour organiser en 1914 l'évacuation de 120 000 compatriotes américains pris de court par les événements en Europe, puis la mobilisation des secours pour les 7 millions de Belges pris en étau entre l'invasion de l'armée allemande et le blocus naval de l'Angleterre. Bientôt, 20 000 tonnes de blé sont en route vers la Belgique. Le système est élargi à la France à partir de 1915.
Cet épisode du rapatriement réussi de 120 000 ressortissants américains fait d'Herbert Hoover un héros national alors que les États-Unis ne sont pas encore officiellement en guerre. En 1917, quand l'Amérique entre dans le conflit, le président d'alors, Woodrow Wilson, le nomme à la tête de l'agence américaine de rationnement. C'est lui qui gère toute la logistique pendant que sa femme Lou intervient auprès des épouses pour qu'elles réduisent leurs dépenses. Hoover est tellement convaincant que toutes les familles américaines parlent d'ouveriser pour ne pas gâcher la nourriture. À la fin de la guerre, il devient le chef du programme interallié de secours d'urgence pour l'Europe. Il voyage à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Moscou pour distribuer l'aide alimentaire et matérielle. Il devient le visage de la générosité américaine. Des squares, des rues, des parcs sont baptisés en son honneur. Hoover est un ambitieux, mais il sait attendre. En 1921, depuis son poste du secrétariat au commerce et au travail, il prépare son avenir. D'une fonction délaissée par ses prédécesseurs, Hoover est en train de faire un tremplin pour jouer les premiers rôles. Il est le garant de la stabilité économique de la nation. Il s'invite dans les réunions, il bouscule, il dérange. Même ses détracteurs doivent reconnaître que sa persévérance paye. Début 1928, un sondage paraît dans le New York Times. Il classe Herbert Hoover parmi les 10 plus grandes personnalités américaines toujours vivantes. Et lorsque le président sortant, Calvin Coolidge, annonce qu'il ne se représente pas aux élections de novembre, le parti républicain se tourne vers celui qui incarne déjà, aux yeux de nombreux Américains, un futur rassurant, Hoover. Il fait campagne au pas de charge. Il enchaîne les meetings, les réunions publiques. Le candidat Hoover défend sa politique économique interventionniste. Il assume la prohibition qui, depuis 1920, interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation, l'exportation d'alcool. Il a tellement foi en lui et en l'avenir que lors d'un meeting en Californie, il prononce cette phrase qu'on ne manquera pas de lui rappeler à peine un an plus tard.
During his presidential campaign of 1928, candidate Herbert Hoover would make this extraordinary promise.
Grâce à notre politique menée ces 8 dernières années, et bientôt avec l'aide de Dieu, nous devrions voir se profiler à l'horizon le jour où la pauvreté sera éradiquée de notre pays.
En attendant qu'elle triomphe. En novembre 1928, Hoover l'emporte avec plus de 58% des voix. Une vague républicaine déferle sur le Congrès. Elle permet au nouveau président de disposer d'une très large majorité. La presse est unanime. Hoover est intelligent, il est compétent, il est brillant. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il sera forcément un grand président. Et le voilà donc, l'orphelin de l'Oregon, devenu milliardaire par son travail, héros national par son courage, investi 31e président des États-Unis. Hoover est le symbole d'une Amérique de tous les possibles. Nous sommes en mars 1929, qu'est-ce qui pourrait bien assombrir ce tableau ? Pour la première fois dans l'histoire du pays, le discours inaugural d'Herbert Hoover passe en direct à la radio. Il est filmé pour les cinémas pâtés et le président tout neuf, gonflé d'optimisme, prononce encore une de ces phrases dont la postérité saura se souvenir. « Je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir, il resplendit d'espoir ».
Herbert Hoover, now president of the United States, stood before the people. With the election of Herbert Hoover, the country had a new slogan,
four more years of prosperity.
Mr. President?
Yeah. À la Maison Blanche, Herbert Hoover impose son style dynamique et volontaire. Il est sur tous les fronts et sur tous les dossiers en même temps. Il se met en première ligne face à la presse. Fini le temps des monologues ennuyeux, des porte-paroles de l'administration Coolidge. Le nouveau président parle face à face avec les journalistes deux fois par semaine. Au début de l'été 1929, plusieurs économistes agitent quelques drapeaux rouges et informent l'entourage du président. Attention, l'économie montre des premiers signes de ralentissement. Hoover fait alors le choix de ne rien faire et laisser les Américains être responsables, dit-il. Il laisse les spéculateurs spéculer. Il laisse aussi les Américains de la nouvelle classe moyenne s'endetter pour un appartement, pour une maison, pour une voiture. Et la grande mode à l'époque est d'acheter les tout premiers postes de radio. Jusque-là, tout va bien.
La foule immense rassemblée devant le Stock Exchange est due au plus grand krach boursier de toute l'histoire de la bourse de New York.
Nous sommes le jeudi 24 octobre 1929. En l'espace de quelques heures, l'indice Dow Jones perd plus de la moitié de sa valeur. La bulle spéculative des achats à crédit vient d'exploser. Premier krach boursier de l'ère moderne. Alors que la panique s'empare du pays, le président Hoover réagit avec un calme surprenant. Il défend l'idée qu'il ne s'agit là que d'une erreur de parcours. Après tout, l'Amérique en a déjà connu. Le président affirme face aux journalistes que lorsque l'activité va reprendre, le système économique n'en sera que plus fort. En coulisses, le secrétaire d'État au Trésor, un homme d'affaires, un ancien banquier, Andrew Mellon, explique au président que cette crise est naturelle, que la seule chose à faire, c'est de rassurer la population. Hoover affiche donc une sérénité détachée. Les fondamentaux de notre économie, qui sont la production et le commerce, sont sur une base solide et prospère, dit-il. Bref, les clignotants sont au vert. Sauf que la crise ne passe pas. Après un week-end d'accalmie, le mardi 29 octobre, Wall Street plonge à nouveau. Plusieurs centaines d'entreprises et autant de grandes banques se déclarent en faillite. Des millions d'Américains se retrouvent incapables de rembourser leurs prêts.
C'est une des choses dont je me souviens. Et bien sûr, je revois aussi ces familles qui étaient expulsées de leur logement. Aussi bas que soit le montant du loyer, ils n'avaient plus de quoi payer. Et la police arrivait, saisissait leurs meubles et les mettait sur le trottoir. Je me souviens, j'étais encore un petit garçon et je voyais tous ces meubles jetés dans la rue. Les familles ne perdaient pas seulement leur maison, c'était également une humiliation pour elles de voir toutes leurs affaires étalées aux yeux de tous, montrant à tout le monde qu'elles ne pouvaient plus payer leur loyer.
La crise a à peine commencé, Hoover a déjà perdu pied. Il ne voit pas qu'on court à la catastrophe. Il s'obstine à refuser une intervention publique d'urgence pour des populations appauvries. Il préfère encadrer des initiatives privées peu efficaces comme un comité d'urgence présidentiel pour l'emploi à la fin de 1930. Il laisse les États et les villes se débattre tout seuls avec une pauvreté galopante. Il demande aux patrons de faire un effort, de continuer à investir. Peine perdue, Kodak, Ford, Standard Oil licencient à tour de bras. Ce n'est qu'à la fin de 1931, face à l'ampleur du désastre, que Hoover accepte d'augmenter les dépenses publiques d'urgence en faveur des chômeurs et des pauvres. À l'été 1932, il signe la loi de construction publique et de secours d'urgence, débloquant 2 milliards de dollars pour les travaux publics et 300 millions pour les États à distribuer en assistance publique. Des sommes considérables pour l'époque, mais certainement pas à la hauteur de l'ampleur de la crise. Herbert Hoover est convaincu que ce n'est pas d'argent dont les Américains ont besoin, mais avant tout d'un choc d'optimisme. Il se déplace alors autant qu'il le peut dans les manifestations sportives. Et devant les foules, il n'évoque ni la crise, ni la récession. Il parle du travail qui amènera demain à des jours meilleurs. À Washington, son organisation présidentielle pour l'assistance contre le chômage, faute de fonds de secours à distribuer, se contente d'organiser des campagnes de publicité pour appeler à l'optimisme. Des affiches invitent à dépenser le dollar, fort comme David contre le Goliath de la crise. Évidemment, ça ne marche pas, la crise s'aggrave partout et l'Amérique a désormais le sentiment que son président ne fait rien.
À Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans-travail. Mais ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. La gaucherie de la plupart d'entre eux en est un témoignage. C'est aussi pour les vieux pavés de bois que la municipalité leur abandonne. L'hiver avance menaçant. Et le froid est un ennemi presque aussi redoutable que la faim.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. Brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor. And I ain't got no home in this world anymore. Look around, it's mighty plain to see. This world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor. And I ain't got no home in this world anymore.
La situation est tellement catastrophique que Herbert Hoover, pourtant un internationaliste qui avait soutenu la Société des Nations, décide de replier l'Amérique sur elle-même. On oublie l'interventionnisme, le rayonnement extérieur et surtout, dès le printemps 1930, Hoover va commettre une erreur dramatique. Sous la pression de certains groupes industriels et malgré les avertissements répétés des économistes, l'administration fait voter une loi qui fait bondir les droits de douane à l'importation de plus de 50% sur 20 000 types de biens. On comprend bien que l'idée était de protéger le marché intérieur. Mais curieusement, ni Hoover, ni ses conseillers n'ont imaginé que les Européens et les Japonais répliqueraient en augmentant à leur tour leurs tarifs sur les produits en provenance des États-Unis et notamment les céréales. Non seulement l'Amérique se retrouve complètement isolée, mais ce protectionnisme outrancier va aussi exporter la crise vers l'Europe et le monde, sans rien arranger sur le marché intérieur. Corentin Célin, à ce stade du récit, on a l'impression qu'il est coincé, ce pauvre Hoover, en fait. Il est coincé par lui-même, il est prisonnier de sa lecture, à la fois de sa lecture de la crise et sa lecture du monde, en fait.
Absolument, et il faut rappeler que, ce qui n'est pas si fréquent pour un président des États-Unis, il avait écrit un livre à assez grand succès dans les années 1920 sur l'individualisme américain. Il était un fervent partisan, défenseur de l'idée que un individu avec des valeurs saines, travaillant énormément, on retrouve la logique du Quaker qu'il était, finirait toujours par réussir grâce à cet effort, cette rigueur individuelle. C'était vraiment une conviction qu'il avait chevillée au corps. Et on la retrouve dans les remèdes, entre guillemets, qu'il veut appliquer à la crise. Il invite chaque individu à se prendre en main, à redoubler d'efforts face à la crise. Sauf que, bien évidemment, face à une crise de cette ampleur qui dépasse de loin chaque individu, il aurait fallu des solutions beaucoup plus innovantes et justement
et collectives.
Et on voit effectivement complètement prisonnier, on le voit complètement prisonnier de ce dogme de l'individualisme américain.
Alors je ne veux pas effleurer ce qu'on dira après le récit, les comparaisons qu'on fera, mais c'est vrai que ce qui saute aux yeux, c'est un peu la comparaison avec la crise du Covid qu'a traversé Trump. Au fond, cette manière de dire « ça va aller ». Quoi qu'il arrive, ça va aller, est finalement très similaire.
Oui, tout à fait. C'est effectivement ces situations où un président se retrouve face à une crise totalement inattendue, d'une ampleur gigantesque, et qui réclame des solutions hors des sentiers battus. Et ou bien le président s'adapte, ou bien, et c'est ce qu'on a vu effectivement avec Donald Trump sur le Covid-19, il a recours à ses vieux réflexes. Et comme avec Hoover, les vieux réflexes, ça ne marche pas forcément.
Alors, ce qui est très étonnant chez Hoover, et au fond, peut-être chez Trump aussi, et chez d'autres, c'est que il a été chef d'entreprise, il a créé toute pièce une société qui l'a rendu millionnaire. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment marchent ses affaires. Et pourtant, quand on entend là, on a l'impression qu'il ne s'est pas décidé. Il ne sait pas dire, il va se passer ça. Donc, il recommande, il essaie d'expliquer, mais il ne dit jamais, c'est ça qu'on va faire.
Oui, alors, il faut quand même préciser quelque chose de très important, c'est que Hoover n'avait jamais été élu. C'était vraiment, c'est le premier, c'est une figure même de technocrate, on dirait aujourd'hui. C'est un technocrate, certes de génie, qui est très très fort pour organiser des mécanos administratifs et bureaucratiques, mais qui justement, au moment où il aurait dû coopérer avec le Congrès, trouver des moyens de fonctionner en pleine harmonie avec le Congrès des États-Unis, il sait pas faire, et en particulier parce qu'il n'a jamais été élu, il lui manque aussi sans doute de bien connaître le pays.
Les mécanismes.
Voilà, les mécanismes de fonctionnement politique, mais aussi le pays, parce que ça, on s'en apercevra justement à ce moment-là, c'est un pays qu'il connaît pas tant que ça, parce qu'il a été très très souvent à l'étranger, il a passé une grande partie de sa vie à l'étranger.
Une crise, ça révèle un homme parfois, on l'a vu d'ailleurs dans certains présidents précédents, là c'est intéressant, la crise enfonce cet homme en fait.
Oui, c'est vrai, c'est un cas assez rare dans l'histoire de la présidence des États-Unis. Là on a effectivement un homme qui arrive paré d'une gloire très importante, on a du mal à imaginer à quel point Hoover était populaire en 1928 et une figure très connue.
Déjà des noms de rue, déjà des noms de square de son vivant, il n'y en a pas beaucoup.
Exactement, et la crise en fait un autre homme qui reste dans l'histoire ensuite comme, entre guillemets, un raté.
On reprend le fil de ce récit, Corentin, je ne vais rien dévoiler, mais ça ne va pas s'arranger vraiment pour Herbert Hoover.
Tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you can't sleep in the morning, oh, you better call tonight. And I wake up with this feeling in my body. I know in my heart this is one of stand every evening to get it right. So if you kiss me in the morning, though you might.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
Braying this crowded street with lead at Dyckman Street and Broadway, two thugs who killed two policemen in cold blood met death in this bullet-riddled cab. The cab itself was hit 42 times in the running gunfight. Look at those bullet holes. The crowd, which a few minutes before fled in panic from the bandit's fire, pressed the police hard in an attempt to see the dead bandit taken away. He goes to join his two companions, who died on the way to the hospital.
Pour l'instant, on navigue à l'aveuglette, mais si vous nous apportez vos lumières...
Oui, justement, j'ai déjà quelques idées. Et la première que je voudrais mettre en pratique, c'est ça. Il n'a pas envoyé de déclaration depuis 1926.
De déclaration?
Oui, et d'impôt sur le revenu.
Vous étiez chargé des versements à Monsieur Capone. En effet. Et vous avez personnellement délivré des fonds non déclarés et d'un montant considérable à Monsieur Capone. Oui. Veuillez nous en préciser le montant.
En 3 ans et demi, j'ai... personnellement délivré à M. Capone des fonds d'un montant supérieur à 1 300 000 dollars.
Veuillez répéter ce montant, je vous prie.
1 300 000 dollars.
Je vous remercie.
Votre honneur, nous souhaitons changer le système de défense. Au lieu de plaider non coupable, nous plaiderons coupable.
Mercredi 6 octobre 1931, tribunal spécial de Chicago. L'homme qui fait face à ses juges s'appelle Al Capone. Faute d'arriver à le coincer pour trafic d'alcool, pour racket, pour proxénétisme ou pour violence physique, il vient de tomber pour fraude fiscale. Et celui qui est à l'origine de cette arrestation, c'est l'incorruptible Elliot Ness. Al Capone est déclaré coupable d'évasion fiscale. Il est condamné à 17 ans de prison, dont 11 fermes et une amende de 50 000 dollars. Il part pour le pénitencier d'Alcatraz. Pour l'administration Hoover, c'est une victoire. Pendant sa campagne, le président, comme on l'a vu, a affiché son soutien à la prohibition et vanté sa doctrine de l'ordre et la morale. Le message vers l'opinion est fort, pas assez pour faire oublier la crise économique qui ravage le pays. À la fin de l'année 1931, les États-Unis comptent plus de 8 millions de chômeurs. Plus d'un tiers de la population américaine vit dans la pauvreté. Dans les grandes villes, les habitants cherchent de quoi se nourrir. Dans les poubelles des restaurants, la situation dans les campagnes n'est pas meilleure. On mange un jour sur deux si on a de la chance. Et le long des routes poussent des bidonvilles qu'on appelle des Hoovervilles. Comme on se confectionne des couvertures Hoover quand on tente de se réchauffer le corps avec de vieux journaux. Chaque jour, plusieurs milliers de personnes viennent faire la queue lorsque des associations organisent des distributions alimentaires. Il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Parmi ceux qui témoignent sur cette Amérique au bord du précipice, l'envoyé spécial du journal Le Figaro, Joseph Kessel, il raconte son passage dans un New York méconnaissable.
J'ai eu l'impression au début, de vivre dans l'irréalité. Tout le monde connaît plus ou moins, par les photographies et par les films, ce cœur de New York qui est la 5e avenue, avec ses files de voitures, avec ses magasins éblouissants, ses devantures. Eh bien, j'ai vu toutes les boutiques portant des vitrines vides et sur ces vitrines, des bandes collées disant « Alloué, alloué, alloué ». La nuit, me promenant dans les artères de New York, j'ai admiré ces gratte-ciel tous illuminés et dont les plus hauts étages semblaient des astres lointains. Mais l'ami américain avec lequel je faisais cette tournée m'a dit « C'est purement du bluff, c'est pour ne pas laisser voir la misère extravagante où nous sommes tombés. Ces buildings sont vides pour les trois quarts, un ascenseur fonctionne sur 10 et Dieu sait quand tout recommencera. »
Mr. President.
Hoover finit quand même par approuver la construction d'un immense barrage sur le fleuve Colorado, le Boulder Dam, qui s'appellera d'ailleurs ensuite le barrage Hoover et sera inauguré par son successeur, Franklin Delano Roosevelt. Hoover crée aussi la Société financière de reconstruction, qui attribue des prêts fédéraux aux banques pour qu'elles relancent l'activité, mais il refuse toujours de faire intervenir l'État pour aider les millions d'Américains les plus pauvres. D'ailleurs, en décembre 1931, des centaines de personnes se présentent comme des marcheurs de la faim devant Washington. Ils tentent d'accéder à la Maison Blanche pour donner au président Hoover une pétition « Vous devez créer des emplois ». La police à cheval refoule les manifestants à coups de bâton. Pendant ce temps, à la Maison Blanche, Hoover n'a pas renoncé aux réceptions. Il fait toujours bonne chère et boit les meilleurs vins. Hoover n'est pas un personnage très sympathique, sa femme non plus. Il ne sourit jamais, il parle peu, il est tellement exigeant avec son personnel qu'il l'épuise. Avec les journalistes qu'il aimait tant rencontrer autrefois, les relations sont devenues exécrables. Il accuse les journaux de sans cesse déformer ses propos et d'être responsable de son impopularité. Le président exige désormais que la presse lui envoie les questions par avance, à lui de choisir s'il répond ou non. Et lorsqu'il fait l'effort d'apporter une réponse, il minimise la crise ou change de sujet. À plusieurs reprises, il quitte même de manière brutale la salle de presse pour montrer son agacement. À partir de 1932, il ne répondra plus à aucune question. En mars de cette même année 1932, à Détroit, capitale de l'industrie automobile, 3000 ouvriers mis au chômage défilent et investissent la grande usine Ford de Rivière-Rouge. Ils veulent négocier un retour au travail avec leur direction. La police intervient, elle charge les manifestants et provoque un mouvement de panique, 5 morts et 60 blessés. La situation passe de critique à explosive. Lorsque quelques semaines plus tard seulement, à la fin du printemps 1932, 20 000 vétérans de la Première Guerre mondiale campent avec leur famille à un jet de pierre du Capitole. Ce bidonville dans la ville deviendra le campement d'Anacostia. Ces gens veulent qu'on leur verse leur prime d'anciens combattants quand le Congrès a prévu d'attendre 1945. Ils se souviennent du Hoover de 1914, celui qui a rapatrié des soldats, celui qui savait distribuer nourriture et réconfort. Ils demandent à rencontrer le président qui refuse. Les manifestants, pour la plupart, refusent eux aussi de quitter Washington. Arrive le mois de juillet, des incidents éclatent avec la police, un ancien combattant est tué. La peur s'empare des généraux. En outrepassant les instructions du président, le chef d'état-major, le général Douglas MacArthur, malgré l'avis de son aide-de-camp, un certain Dwight Eisenhower, envoie l'armée et les blindés de Patton pour déloger les anciens combattants à coups de gaz lacrymogène et brûler leurs cabanes. L'image de Hoover était déjà très écornée. Dans l'opinion, l'épisode achève d'en faire un homme odieux et insensible. En face, dans le camp démocrate, le gouverneur de New York, Franklin Delano Roosevelt, accuse Hoover et les Républicains d'aggraver la crise en ne prenant aucune décision pour aider la population. Roosevelt vient de remporter les primaires de son parti. Il accuse les banquiers de leur folie spéculative. Il dénonce la loi sur la prohibition. Il défend l'idée d'un choc économique nécessaire pour relancer l'Amérique. Il propose sa nouvelle donne, le New Deal, qu'il rendra célèbre et sortira l'Amérique de l'ornière. Hoover sera battu à plate couture. Franklin Roosevelt lance son New Deal et Hoover, mauvais perdant, n'aura de cesse de le critiquer. Jusqu'à sa mort, il devra apprendre à vivre avec les critiques et les rancœurs de l'opinion. Le personnage est tellement détesté qu'une rumeur lui prêtera un rôle dans l'enlèvement du bébé de Charles Lindbergh en 1932. Hoover aura quand même droit à une réhabilitation tardive grâce à ses efforts humanitaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste aujourd'hui encore l'un des présidents les plus détestés de l'histoire des États-Unis.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Sintès sur France Inter.
Well, I'm a crawling king snake. And I'll rule my den. Well, I'm a crawling king snake. And I'll rule my den. I don't want you hanging around my maid. I'm just trying to keep her in. Well, you caught me crawling now, baby, when the grass was very high. I'm gonna keep on crawling, girl, until the day I die. Because I'm a crawling cane snake, and I'll rue my day. Come on and give me what I want, baby, and I'll come crawling again.
President of the United States.
Presidents. Ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Sintès.
Corentin Célin, c'est votre exercice à chaque fois. Placer ce président sur l'échelle de Trump de 1 à 10, qu'est-ce qu'on dit ?
On va dire un 6 sur 10, mais qui pourrait rapidement, à la fin de la présidence Trump, monter vers les sommets, puisque la présidence Hoover reste aujourd'hui l'une des plus ternies, l'une des plus ratées dans l'histoire des États-Unis, parce que Hoover a été confronté à une crise, on l'a vu, qu'il n'a pas su gérer, un petit peu comme Donald Trump a été confronté en 2020 à la crise de la Covid-19. Il y avait quand même aussi avant cela des ressemblances assez fortes, évidemment, ce sont deux républicains, mais au-delà de ça, Hoover était un millionnaire extrêmement riche, qui d'ailleurs, comme Trump, n'a pas été payé comme président, qui a refusé d'être payé comme président, qui vivait avec sa propre fortune. Un homme également qui n'avait jamais été élu, on l'a déjà dit, comme Trump. Donc des similitudes peut-être dans le parcours, même si ensuite, il y a aussi des différences, puisque Hoover était vraiment un self-made man, hein, vraiment un homme qui s'était fait tout seul, tandis que Trump est un héritier.
Corentin Célin, ce qu'on voit aussi avec Hoover, c'est que ça va le poursuivre, cette réputation, et au fond, il aura cet échec collé au front jusqu'à la fin de sa vie. On sent déjà chez Donald Trump la peur de ça, l'idée que ensuite il sera étiqueté comme le président qui a échoué. Dans ses attitudes aujourd'hui, cette peur-là, elle transpire déjà.
Oui, c'est vrai que ça peut être une très grande crainte. Et de ce point de vue, Hoover est aussi là aussi un contre-modèle, hein, parce que déjà, il faut rappeler que Hoover est à l'époque le président qui survit le plus longtemps à sa présidence. Il survit plus de 31 ans à sa présidence, ce qui est énorme. Et pendant ces plus de 30 ans, il doit se confronter en permanence. Et il est ramené en permanence à son échec. C'est un premier point. Et deuxième point, au lieu de reconnaître ses erreurs, de reconnaître des fautes, au contraire, il se lance dans une véritable croisade contre son successeur Roosevelt, contre le New Deal, qu'il accuse même d'être un fascisme, ce sont ses termes. Et donc, c'est cet entêtement, et on connaît cet entêtement aujourd'hui parfois dans Donald Trump, dans ses idées, dans ses dogmes, c'est cet entêtement qui fait de Hoover aussi un post-président qui n'a pas bien réussi non plus sa vie après la présidence.
Et au fond, c'est parce qu'il est mauvais perdant, Hoover, et on verra s'il perd d'ailleurs, si Trump est un mauvais perdant, parce que on pense au New Deal, au fond, le New Deal faisait l'unanimité de toute façon, démocrate et républicain.
Oui, alors ça aussi, c'est on va dire que Hoover est décidément bien malheureux. Ce qui est, avant sa présidence, c'était plutôt un républicain de gauche, mais dans une société, dans une politique américaine, qui était, j'allais dire, plutôt à droite, où les gouvernements respectaient la liberté absolue des marchés, etc. Il y a un véritable changement séculaire de la société politique avec le New Deal, où on a quand même un basculement à gauche, avec le passage à l'intervention de l'État, la régulation de l'économie par l'État, et Hoover, après sa présidence, est totalement basculé vers la droite. Il soutiendra sans arrêt les candidats les plus conservateurs à l'intérieur du Parti républicain, il apparaît déconnecté, en fait, avec l'évolution des États-Unis après sa présidence. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit bien que c'est un danger qui peut guetter Donald Trump quand on voit, par exemple, sa difficulté à appréhender des mouvements sociaux, des changements sociaux aussi importants que ceux, par exemple, à l'œuvre après la mort de George Floyd.
Mais est-ce que ça veut dire que pour Hoover et au fond comme pour Trump, on a du mal à voir où est leur idéologie, finalement, à l'un comme à l'autre ?
Alors là, on pourrait quand même dresser une différence parce que disons que chez Hoover, c'est plutôt une maladie de l'inadaptation. C'est-à-dire que tout ce à quoi il croyait, tout ce à quoi il avait fondé sa vie, était inefficace par rapport à une nouvelle donne politique et sociale. Dans le cas de Donald Trump, c'est la volonté d'imposer à toute force une doctrine qui est nationaliste, qui est nativiste, par rapport à une réalité qui ne correspond pas forcément. Ce sont pas les mêmes idées, c'est pas, peut-être pas exactement la même posture. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Donald Trump, qui est encore loin d'avoir perdu, c'est vraiment un spectre Hoover. Mm-hmm. Devenir un nouvel Hoover, ce serait pour lui un cauchemar, ça c'est certain.
Corentin Célin, merci beaucoup. Herbert Hoover, de l'espoir à l'échec d'une présidence. Un épisode à réécouter en podcast et sur le site de France Inter. Merci à ceux qui ont prêté leur voix à cet épisode. Merci à Eric Oswald, à Philippe Pirard et à Simon Maisonneuve. Et merci à Djoubaka, le programmateur musical de la série.